Actu.
Elle.
Et lui.
Actu.
Actu.
Actu. Elle et lui.
Elle.
Lui. Elle. Lui.
D'actuel.
Et lui.
Et bonjour à tous, bonjour à toutes, et bienvenue pour cet actuel et lui. Voilà, bonjour,
bonjour
les filles.
Salut, salut, salut.
Bon appétit à ceux qui nous écoutent. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? On commence avec Anne-Marie.
Je vais vous parler du conte de fées de Walt Disney.
On va retourner en enfance.
Exactement. Et toi, Guillaume?
Alors, moi, je vais vous parler des radios libres et des radios associatives.
Comme 48 FM.
Eh bien, oui, vous, on va en parler.
Et Aurélie?
Eh bien, moi, je vais vous faire une petite revue de presse un peu décalée. Voilà, bon. Des petits trucs que j'ai piochés par-ci, par-là. Et ils font la tête tous les deux parce qu'ils ne savent pas encore mes petites trouvailles.
C'est ça, en fait.
C'est secret.
Elle a une pile de dossiers, des trucs entourés.
C'est ça. Voilà, je vais vous parler pour entendre vos réactions et qu'on les partage avec nos auditeurs.
Bon, mais donc, on commence avec Anne-Marie et ce conte de fées de Walt Disney.
Oui, alors on l'a appris début avril, le dernier Disney, La Reine des Neiges, est officiellement le dessin animé le plus rentable de toute l'histoire de l'animation. C'est bien simple, La Reine des Neiges a dépassé la barre symbolique du milliard de dollars de recettes mondiales. Je vous propose à cette occasion de revenir sur la saga Walt Disney et sur les plus célèbres dessins animés qui ont bercé notre jeunesse.
Et la belle aventure a commencé avec une petite souris.
Oui, Walter Elias Disney, dit Walt, né en 1901 à Chicago, meurt en 1966. Connu comme producteur, réalisateur, scénariste, acteur et animateur américain de dessins animés, il a fondé en 1923 la société Walt Disney, il n'a pas été chercher très loin le nom de sa société, et devient petit à petit l'un des producteurs de films les plus connus. Son premier personnage, il le dessine d'un coup de crayon dans un train, selon la légende. Ce personnage qui a des oreilles longues et une queue va prendre vie dans un film muet. Je vous parle bien sûr du célèbre Mickey Mouse. La sauce va véritablement prendre lorsqu'en 1927, Walt Disney ajoute du son à ce film. En 1931, Mickey apparaît dans 12 films. Puis en 1932, il devient le personnage le plus populaire de dessin animé à l'écran et de nombreux studios concurrents créent des clones de Mickey Mouse dans l'espoir de surfer sur la vague du succès de Disney. En 1932, Disney reçoit un Oscar d'honneur pour la création de Mickey Mouse, dont la série passera en couleur seulement en 1935. Afin de rendre ses studios bénéficiaires, Walt décide de produire un long métrage d'animation et un soir de 1934, il visionne avec ses animateurs un film muet de 1919 qu'il a vu dans sa jeunesse, Blanche-Neige, avec Marguerite Clark. Son long métrage sera basé sur cette histoire. Le premier film long métrage animé en anglais, Blanche-Neige, est diffusé en 1938. Le film devient le plus rentable de cette année-là, 1938. Il sera le plus important succès du cinéma jusqu'à la sortie du film Autant en emporte le vent en 1939. Suivent ensuite d'autres personnages tels que Pinocchio, Fantasia et Bambi. En 1951, Walt Disney crée Alice au Pays des Merveilles. En 1955, La Belle et le Clochard. En 1961, Les 101 Dalmatiens.
Ça nous fait rêver tout ça, mais aujourd'hui, Disney, ce n'est pas seulement des dessins animés.
Exactement. Le groupe est aujourd'hui divisé en plusieurs branches afin de pouvoir cibler différents publics. On a tout d'abord Walt Disney Pictures. Il s'agit bien évidemment de la partie classique hein, Disney, avec les productions familiales créées en 1983. On peut identifier trois identités. Donc, on a Walt Disney Animation Studio, fondée en 1934. Elle voit le jour afin de produire Blanche-Neige et les Sept Nains, comme on l'a dit, Pinocchio, ou plus récemment Réponse. On a aussi Pixar Animation Studio. C'est en 1995, avec Toy Story, que le studio a débuté, connaissant un succès immédiat. En 2006, Pixar est racheté par Disney, jusque-là distributeur exclusif. Donc on a Walt Disney Animation Studio, Pixar Animation Studio et aussi Disney Nature. Dès 1953, Disney avait créé une entité spéciale pour distribuer des documentaires tels que La Marche de l'Empereur. Mais en réalité, il n'y a que ce documentaire-là qui a réellement eu du succès. Donc on a vu qu'il y avait Walt Disney Pictures et il y a aussi Marvel Studios. C'est en 2009 que Disney rachète Marvel Entertainment. Ce dernier bénéficie de la même liberté artistique que Pixar. La première sortie d'un Marvel distribué par Disney a été un carton avec le succès incroyable d'Avengers qui sera suivi le 3 mai 2013, donc l'an dernier, d'Iron Man 3. Avec plus de 600 millions de dollars de recettes, Avengers est devenu le plus gros succès du studio aux États-Unis. Il est suivi du Roi Lion, de Toy Story 3 et du Monde de Nemo. Dans les 10 plus gros succès Disney, on compte tout de même 3 des 4 Pirates des Caraïbes, 5 dessins animés, 3 Pixar, 4 films Disney font ainsi partie du top 10 des plus gros succès de tous les temps aux États-Unis.
Et justement, parmi tous les Disney, c'est la Reine des Neiges qui a rapporté le plus gros à cette entreprise.
Non seulement ce dessin animé est le plus gros succès de l'année 2013 dans le domaine animation, talonné par Moi, Moche et Méchant 2, mais il est aussi le plus gros succès pour un film réalisé par une femme. Jennifer Lee a co-signé le film avec Chris Buck. Enfin, ajoutez à cela 2 Oscars, un pour le meilleur film d'animation et l'autre pour la meilleure chanson pour Let It Go, qui veut dire libérer, délivrer en français, chanté par Idina Menzel, un titre, un tube d'ailleurs, qu'on écoutera à la fin de cette chronique.
Alors on sait quels sont les dessins animés Disney les plus plébiscités ou
on a nous tous, en dire plus on a tous le même problème avec les Walt Disney, qu'on soit autour de cette table ou bien dans la vie de tous les jours. On les aime tous, ces Disney. On se souvient du moment pendant lequel on les a regardés et avec qui ils nous ont forcément frappés. Alors on sait si on les a regardés soit au cinéma, soit chez nous, sur le canapé avec
un petit... maman ou avec son chéri, ou on s'en rappelle.
Exactement, ou avec son chien. Alors le premier pourrait être Le Roi Lion, sorti en 1994. Ensuite, La Belle et la Bête, sorti en 1991. Vous avez bien vu, hein, c'est pas du tout chronologique, encore une fois, c'est dans...
C'est ton classement.
C'est mon classement, c'est le classement aussi que j'ai vu sur Internet des internautes, Le Roi Lion étant vraiment le dessin animé le plus plébiscité de tous les Disney. Donc on a Le Roi Lion, La Belle et la Bête, Aladdin, sorti en 92. Ensuite, on pourrait retrouver la Blanche-Neige pardon, et les Sept Nains, donc en 1937. Les 101 Dalmatiens en 1961. Le Livre de la Jungle en 1967. Alice au Pays des Merveilles en 1951. La Belle et le Clochard, sorti en 1955. La Petite Sirène, sorti en 1989. Et enfin, Pinocchio, sorti en 1940.
Je me souviens de La Petite Sirène.
Mais bon, difficile de ne pas citer La Belle au Bois Dormant, Dumbo, Peter Pan, Les Aristochats, Cendrillon, Pocahontas, Robin des Bois, Le Bossu de Notre-Dame. En tout, depuis 1938 et La Belle et la Bête, depuis 1938 et avec Blanche-Neige et les Sept Nains, on compte 77 œuvres Disney et Pixar, car il ne faut pas oublier qu'il y a eu des suites à certains dessins animés, tels que Toy Story 2, Peter Pan 2, Bambi 2. Et puis, parmi les 77 dessins animés, j'ai compté le petit dernier des studios Disney, Clochette et la Fée Pirate, qui sortira prochainement au théâtre Demande. Au cinéma Demande.
Comment expliquer le succès de Disney ?
Des dessins travaillés, des histoires fortes, mêlant amour, amitié, fraternité, beaucoup d'humour, de tendresse et de délicatesse, de magnifiques chansons devenues des tubes, voilà quelques clés du succès des dessins animés. Cependant, Disney fait parfois l'objet de certaines critiques. Ses princesses ont du mal à s'émanciper. Depuis Blanche-Neige en 1938, les héroïnes font croire aux petites filles qu'elles ne pourront connaître le bonheur que par la rencontre avec un prince charmant. Encore faudra-t-il ensuite savoir tenir un intérieur, pourvu que ce soit un château. Souvenez-vous de La Belle au Bois Dormant, par exemple, qui se réveille grâce au baiser de son prince charmant. Pourtant, avec Réponse et La Reine des Neiges, on sent que les studios Disney veulent adapter le caractère de leurs héroïnes en fonction de l'évolution de la société. Des jeunes filles
qui n'idéalisent pas forcément le prince charmant.
C'est ça. Et qui prennent seules leur destin en main. Mais je vais être honnête, les dessins animés Disney, c'est avant tout un univers magique, difficilement descriptible, dans lequel enfants comme adultes se laissent envoûter.
Bon, tu nous as parlé des musiques et justement, tu nous en fais écouter quelques extraits ?
Avec plaisir. Difficile de faire un choix, là encore, et pourtant il a bien fallu en faire un. Commençons peut-être par l'histoire de la vie extrait du Roi Lion.
Ta vie sur la planète éblouie par le dieu soleil. À l'infini, tu t'éveilles aux merveilles de la terre qui t'attend et t'appelle. Tu auras tant de choses à voir pour franchir la frontière du savoir. Pour cueillir l'héritage qui vient du fond des âges, dans l'harmonie d'une chaîne d'amour. C'est l'histoire de la vie.
Ah ben voilà, l'histoire de la vie, hein, c'est ça,
dedans,
ça. On est
même,
complètement dedans.
C'est quand même une super chanson.
Super.
Super chanson aussi, c'est Ce rêve bleu.
Ah oui. Hein, ce rêve bleu.
Ah, tu le fais bien.
Bon. Je verrais bien tous les deux sur un, sur un tapis.
Ah ben merci.
Mais non, mais c'est mignon. Plouf.
Bon, et donc on écoute Ce rêve bleu d'Aladin.
Splendeur, dis-moi princesse, n'as-tu jamais laissé parler ton cœur? Je vais ouvrir tes yeux aux délices et aux merveilles de ce voyage en plein ciel au pays du rêve bleu. Ce rêve bleu, c'est un nouveau monde en couleur. Personne ne nous dit, c'est interdit de croire encore au bonheur.
Ce rêve bleu, je n'y crois pas, c'est merveilleux. Pour moi c'est fabuleux, quand dans les cieux, nous partageons ce rêve bleu à deux.
Ce rêve bleu à deux.
Ouais, c'est quand même super ce rêve bleu. Hein.
Oui, puis ça rappelle de bons souvenirs.
Ah oui.
De tapis volant.
Puis Aladdin.
Je vous propose enfin d'écouter L'air du vent, extrait du dessin animé.
On reste un peu dans le tapis volant avec L'air du vent.
Voilà, extrait du dessin animé de Pocahontas.
Allez, Pocahontas.
Pour toi, je suis l'ignorante sauvage. Tu me parles de ma différence, je crois sans malveillance. Mais si dans ton langage tu emploies le mot sauvage, c'est que tes yeux sont remplis de nuages, de nuages. Tu crois que la terre t'appartient tout entière. Pour toi, ce n'est qu'un tapis de poussière. Moi, je sais que la pierre, l'oiseau et les fleurs ont une vie, ont un esprit et un cœur. Pour toi, l'étranger ne porte le nom d'homme que s'il te ressemble et pense à ta façon. Mais en marchant dans ses pas, tu te questionnes. Es-tu sûr, au fond de toi, d'avoir raison? Comprends-tu les chants d'espoir du loup qui meurt d'amour? Les pleurs des chats sauvages au petit jour? Entends-tu chanter les esprits de la montagne? Peux-tu peindre en mille couleurs l'air du vent? Peux-tu peindre en mille couleurs l'air du vent?
Ah, et donc Anne-Marie, on va terminer cette évocation de Walt Disney, de toutes ces histoires qui nous ont fait vibrer dans notre jeunesse et qu'on peut, ce qu'on disait d'ailleurs pendant le morceau, c'est qu'on pouvait continuer à les regarder encore aujourd'hui, hein, même si on est grand, c'est pas
oui,
interdit.
Oui, écouter tout simplement les chansons, même au travail ou dans la voiture, peu importe. Bravo. Chez soi. Non, mais tu sais que les femmes peuvent faire plusieurs choses à la fois.
Ah oui, c'est vrai, c'est ça.
C'est ça. Une fois que tu as cette information, Guillaume, tu te rends compte qu'un univers s'ouvre à nous.
Tout à fait. Bon, alors qu'est-ce qu'on écoute pour finir cette évocation et voilà, et avant de passer à la chronique suivante, dis-nous tout.
Eh bien, je vous propose d'écouter Délivré, Libéré, tube du dessin animé La Reine des Neiges.
Dans la nuit, la neige est reine à son tour. Un royaume de solitude m'a placé là pour toujours. Le vent qui hurle en moi ne pense plus à demain. Il est bien trop fort, j'ai lutté en vain. Cache tes pouvoirs, n'en parle pas. Le secret survivra. Pas d'état d'âme, pas de tourment. Perdu dans l'hiver.
liberté.
Actu,
elle
et lui.
Bon, ben on se retrouve avec ta chronique, Guillaume. Tu vas nous parler des radios libres et des radios associatives.
Et oui, tout à fait. Vous pouvez vous demander peut-être un peu quel est le lien avec l'actualité. Mais certains d'entre vous ont dû entendre parler du FSER, le Fonds de soutien à l'expression radiophonique, pour lequel les radios associatives sont en train d'achever leur dossier pour 2014. Il y a eu beaucoup de demandes d'attestation, mais on y reviendra à la fin de la chronique. Et c'est ça qui fait l'actualité de tout ça, puisqu'on va revenir à la création de ce fonds de soutien.
Bon, alors commençons par le commencement. Comment sont nées ces radios libres ?
Alors, les radios libres étaient initialement des radios pirates qui émettaient clandestinement dans les années 70 en Europe pour revendiquer la liberté d'expression et la fin des monopoles d'État dans le domaine de la radio et de la télévision. Le terme a continué d'être revendiqué ensuite par un certain nombre de radios associatives non commerciales, héritières et continuatrices de ce mouvement. Alors, le mouvement des radios libres démarre essentiellement en Italie avec, par exemple, Radio Alice, puis en Grande-Bretagne avec principalement la célèbre Radio Caroline, qui émettait depuis un bateau situé dans les eaux internationales. C'est l'histoire qui a été reprise dans le film Good Morning England. Je ne sais pas si vous avez vu ce film qui est assez...
Moi, je connais Good Morning Vietnam, mais...
Qui est assez, England, okay. Ce film est assez sympa. Bon, voilà, ou encore Radio North Sea International, qui diffusait depuis une île artificielle au large des Pays-Bas. En France, la radio et la télévision sont jusqu'en 1980 sous monopole et tutelle de l'État, via le ministère de l'Information, lequel contrôle l'ORTF jusqu'en 1974, puis sous forme de société nationale, TF1, Antenne 2, FR3 et Radio France, ensuite. Voilà. En France, avant 1940, une dizaine de stations de radio indépendantes et commerciales ont commencé à émettre à partir du milieu des années 20. Toutefois, après la Seconde Guerre mondiale, un monopole d'État a été établi et à partir des années 50, il est progressivement aménagé et contourné de facto par quelques grandes stations indépendantes qui commencent à émettre hors de France, à l'exception toutefois de Radio Monte Carlo, RMC, dont le puissant centre émetteur est situé en France, en Provence, sur les hauts plateaux du Verdon, à Roumoules, proche du lac de Sainte-Croix-sur-Verdon. Ces radios sont bientôt qualifiées de radios périphériques car elles diffusent depuis le Luxembourg. Hein, c'est Radio Luxembourg qui est devenu RTL, hein, parfois on dit ce terme-là. L'Allemagne avec Europe numéro 1, hein, devenue Europe 1, et donc la principauté de Monaco, RMC, ou encore Andorre avec Sud Radio et Radio Andorre. Alors, grâce à la gamme de fréquences des ondes longues, elles émettent sur plusieurs centaines de kilomètres à travers les frontières. Ces sociétés commerciales ne peuvent faire l'objet d'aucune poursuite puisqu'elles ne diffusent pas depuis le territoire national et ces antennes ne participent donc pas au mouvement des radios libres mais s'inscrivent d'emblée dans une logique purement commerciale. Elles bénéficient par contre d'une grande popularité due à la relative indépendance de ton et de leur programmation musicale par rapport aux radios du monopole d'État. À cette époque, la bande FM permet un meilleur confort d'écoute mais ne porte que sur une soixantaine de kilomètres, donc ça nécessiterait aussi pour ces réseaux-là d'avoir une présence assez importante, ce qui n'était bien sûr pas le cas, alors que les grandes ondes permettaient d'aller très très largement sur le territoire. Voilà. À partir de 1974, à la suite d'une faille dans la réglementation italienne qui a permis l'émergence de milliers de stations FM et de télévision locale, le coût de l'équipement, les émetteurs, les antennes, a commencé à devenir très accessible. En France, une dizaine de stations de radio FM pirates sont installées dans des appartements au sommet d'une butte ou d'une tour qui domine une agglomération. Donc, dès 1969, Radio Campus va émettre. À partir de 1978, les émissions FM clandestines se multiplient dans toutes les régions de France, inspirées par la pionnière station offshore Radio Caroline, qui émettant en AM en grandes ondes sur la bande onde moyenne, a arrosé de musique pop toute l'Europe du Nord, en compagnie de quelques autres offshore anglaises moins célèbres. Certains groupes d'activités s'ingénient aussi à vouloir briser le monopole des ondes défendu par l'État. Et c'est vraiment, enfin, il y a eu notamment des partis politiques qui ont créé aussi des radios. Il y a eu Radio Verte qui a été un mouvement aussi justement pour porter aussi et profiter du média radiophonique pour porter des messages.
Alors les radios clandestines sont combattues par l'État, mais certaines forces politiques soutiennent le mouvement.
Oui, l'opposition politique socialiste soutient le combat des radios libres pour la liberté d'expression, sans pour autant promettre la fin du monopole. Néanmoins, la création par des militants socialistes de Radio Riposte et l'inculpation de François Mitterrand et de Laurent Fabius, qui étaient à l'origine de ce projet, crée un précédent et la multiplication des opérations de police, souvent spectaculaires, contre les émetteurs illégaux suscite la désapprobation générale. L'élection de Mitterrand lors de l'élection présidentielle française de 1981 fait espérer une libéralisation des médias.
Mais attends, juste moi que je comprenne bien. Tu veux dire qu'avant, tu t'emploies des mots comme pirate, etc. Mais qu'est-ce qu'il proposait qui était si... En fait, il proposait de la musique qui passait pas la censure, c'est ça en fait ?
Non, c'est pas ça. C'est qu'ils étaient simplement, ils avaient simplement pas le droit d'émettre.
Ah.
Voilà. C'est juste ça.
Voilà. C'est pas une question de contenu en fait.
Bah, la question de contenu, c'est comme c'était un monopole, forcément c'était un contenu qui était avec une seule entrée, une voie unique d'une certaine façon. On était dans une période où le contrôle sur l'information était aussi plus important qu'aujourd'hui. On était parfois un peu dans une logique de propagande, même si on était pas totalement là-dedans, mais il y avait quand même un peu cet aspect-là.
D'accord. Et donc 81 change tout.
Et oui, 81, c'est le nouveau pouvoir socialiste, considère quand même avec une certaine méfiance l'essor anarchique des radios libres, et surtout de toute obédience politique. Ils se disent que même si eux en ont créé, la droite ou l'extrême droite pouvait également en créer et donc développer une certaine forme d'opposition, donc il fallait faire attention. Par ailleurs, la presse quotidienne régionale défend aussi avec vigueur son monopole des ressources publicitaires locales, puisque forcément, si on crée des radios, il y a besoin aussi de ressources publicitaires. Donc forcément, pour des médias locaux, ça pose la question effectivement avec la presse papier. Ainsi, donc le brouillage qui était organisé par TDF, le diffuseur officiel aujourd'hui de bon nombre de radios, faisait du brouillage sur les autres ondes que celles qui émettaient. Donc ça, c'est quand même assez fort. Et persiste après mai 1981 sur quelques stations et les premières propositions de libéralisation imposent aux stations indépendantes des puissances d'émission très limitées, avec, pas rentrer dans la technique, mais quelques dizaines de watts, et l'interdiction de toute ressource publicitaire. Cependant, sur le terrain, la situation devient assez réversible avec des centaines de stations FM qui émettent au grand jour, bien décidés à ne pas être supprimés ou à devoir réduire leur puissance d'émission qui permet d'aller forcément plus loin. Voilà. Et donc, pour des motifs techniques et des moyens limités, le contrôle impossible des fréquences se traduit rapidement aussi par des nuisances entre radios, soit à cause d'émetteurs de médiocre qualité ou mal réglés, ou encore une course à la puissance, soit avec l'appui de groupes de lobby financier, de groupes de presse régionaux et nationaux, lesquels voient dans ces radios communautaires de véritables menaces pour leur ressort publicitaire. Et effectivement, ce qui se passait, c'est que comme les fréquences n'étaient pas réparties entre les gens, il n'y avait pas forcément d'articulation pour dire vous émettez sur le 94.1 comme 48 FM autour de Mende et avec telle puissance qui permet d'éviter de se chevaucher. Et ça, c'est arrivé bien plus tard.
Et donc, justement, comment les choses vont s'organiser ? Comment ça s'organise depuis ?
Alors, effectivement, ça s'est monté en puissance tout ça. À partir de 82, la bande FM devient l'objet de convoitises de groupes commerciaux. Et le gouvernement est sommé, notamment pour des raisons techniques et de confort d'écoute, de mettre de l'ordre et d'attribuer rationnellement les fréquences de la bande FM. Alors, la plupart des stations FM indépendantes historiques vont disparaître. Et les stations élues vont entrer de plein pied dans une logique commerciale concurrentielle et vont être placées sur la haute autorité de la communication audiovisuelle, l'ancêtre du CSA. Alors devant la pléthore de demandes d'autorisation, cette haute autorité établit un cahier des charges concernant les programmes pour avoir une certaine pluralité de contenus et puis certains critères de qualité, notamment le quota d'origine de programmes d'origine française ou francophone, le respect de certaines normes techniques pour l'interopérabilité des récepteurs, la stabilité des fréquences, etc. Voilà. Et donc, ça permet de délimiter aussi des zones de couverture de façon beaucoup plus stricte, et ainsi que des puissances qui permettent comme ça d'éviter les brouillages entre radios voisines, publiques ou non, et le respect aussi des droits d'auteur, une concurrence équitable, la protection aussi des licences autorisées contre les abus. Voilà. La radio devient donc quand même un marché commercial, concurrentiel, dans un cadre légal strict, mais encore critiquable à cause du manque d'indépendance de l'autorité, bien sûr, notamment en matière de régulation de la télévision, mais aussi bien sûr de la radio. La première radio légalisée en France, malgré tout, c'était le 19 avril 1983, est une radio lausérienne. C'est Radio Zema. Elle avait été créée en juillet 1981 et était donc clandestine pendant 2 ans.
Finalement, c'est très récent.
Et oui.
1983. Et comment le paysage a évolué du coup depuis ?
Et bon nombre de radios qui s'étaient appuyées sur le mouvement des radios libres prennent un tournant commercial dès le milieu des années 80, Un certain nombre de réseaux se créent à partir de ces années. Les grandes stations de radio deviennent la propriété de puissants groupes de communication. C'est la naissance de NRJ, de Fun Radio. Voilà, donc ces groupes-là étaient capables de vendre leurs programmes à des stations locales, ce qui leur évitait ainsi d'acheter des droits de diffusion à des prix prohibitifs et leur permettait d'obtenir certains marchés publicitaires grâce à l'apport d'une régie publicitaire nationale. Certaines radios locales conservent leur nom et une tranche de programme local malgré tout. Et puis donc le CSA a légalisé la concentration des locales en réseau de radios indépendantes. Beaucoup sont alimentés par l'achat de programmes donc à des groupes. Et le rôle du CSA est de veiller quand même à la pluralité et d'éviter la création de monopoles par agrégation au sein du même réseau de plusieurs radios autorisées dans le même secteur. Voilà, c'était quand même important. Voilà, donc il y a eu effectivement des grands groupes qui sont nés un peu sur les ruines des radios historiques clandestines qui n'ont pas forcément souhaité rentrer dans cette logique-là. Dans les années 90 et 2000, certaines stations fusionnent leurs activités au sein de ces réseaux ou sont rachetées par celles disposant d'une régie publicitaire plus puissante, offrant la couverture demandée par les annonceurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, le groupe Energy, vous avez Chérie FM, Rire et Chanson, enfin, voilà, tout un bouquet de radios qui sont agglomérées. Voilà, d'autres s'organisent en syndicats non commerciaux, permettant à chacun de conserver leur indépendance. En termes de programmation, le regroupement permet de financer des programmes communs ou d'offrir une couverture mieux adaptée aux annonceurs et d'assurer une promotion mutuelle auprès de leurs auditeurs. Des dizaines de radios associatives à vocation locale, sociale et culturelle, en marge des logiques commerciales, ont lutté pour maintenir leur activité ou se sont créées plus récemment, notamment dans les régions.
C'est le cas donc pour nous de 48 FM, c'est une radio associative.
Et oui, et donc les radios associatives non commerciales ont un statut qui est fixé en France par la loi sur la liberté de la communication, dite la loi Léotard, qui permet d'attribuer une part significative des fréquences et un financement public, le fameux FSER dont on parlait tout à l'heure. Elles sont aussi autorisées à diffuser de la publicité à hauteur de 20% de leur budget. Mais un certain nombre de stations, attachées à leur totale indépendance éditoriale, refusent cependant d'employer cette ressource. C'est le cas d'un certain nombre de radios en Languedoc-Roussillon. Bon, si vous écoutez 48 FM, vous vous rendez compte qu'il y a quand même assez peu de publicité. Mais voilà, donc
c'est tout le monde écoute 48 FM. Mais
oui, évidemment. Bah, surtout ceux qui nous écoutent. Hein. Sinon,
c'est
sinon,
logique.
Sinon, il y aura un problème.
Un truc, sinon. Au mieux.
Voilà.
Leur nombre, tu voulais nous dire ? Le nombre de radios en France ?
Oui, alors c'est des dizaines de radios associatives à vocation. Non, c'est pas ça. Je suis perdu. Voilà, je vais y arriver.
600 radios qui exploitent 1000 fréquences.
Voilà, elles sont effectivement au nombre de 600 en France. Elles exploitent presque 1200 fréquences donc sur l'ensemble du territoire français et emploient près de 3000 salariés et plus de 8000 dans le monde d'ailleurs. Divers syndicats et fédérations existent, notamment actuellement, tels que la Confédération nationale des radios associatives, la CNRA, dont 48 FM est membre. Et puis il y a d'autres réseaux, réseau Yastar qui regroupe les radios campus, la Fédération des radios rock, Ferraroc, le Syndicat national des radios libres, le SNRL, qui est le plus puissant. Et donc les radios se regroupent également au sein de fédérations régionales. Et en Languedoc-Roussillon, c'est la Franck-LR, Fédération régionale. Des radios associatives non commerciales du Languedoc-Roussillon. Voilà.
Donc il y a 48 FM en Lozère, enfin, surtout à Mende, mais il y a aussi sûrement des radios associatives hors de nos frontières.
Et oui, et dans les pays anglophones ou hispanophones, on parle de radio communautaire, community radio. Le terme radio communautaire est peu utilisé et peu apprécié en France, puisque ailleurs, cette appellation est plutôt bien perçue, assumée et régulièrement utilisée. En France, la question de communauté est toujours peut poser un peu question. On a une tradition républicaine, universaliste, qui interdit un peu cette logique communautaire. Mais l'idée, c'est quand même cet aspect-là de donner finalement la place à l'expression locale. Et donc les Français parlent plus volontiers donc de radio libre, de radio associative, de radio locale ou de proximité. Ailleurs on parle de radio communautaire. Alors le système français de financement du FSER est très original en Europe, même s'il y a des dispositifs assez comparables qui ont été créés en Belgique, en Hollande ou au Danemark. Voilà. À noter qu'il y a aussi une fédération nationale de ces radios associatives. C'est donc l'AMARC, Association mondiale des radiodiffuseurs communautaires. qui est une association non gouvernementale internationale de radio composée environ de 4000 membres dans 110 pays. Et donc, il y a quelques temps, sur 48FM, vous avez entendu un reportage qui était fait au Mali il y a quelques mois, qui était réalisé par, dans le cadre d'une coopération, justement, dans le cadre de la marque, entre la Fédération régionale du Languedoc-Roussillon et des médias communautaires au Mali.
Tu nous as parlé du FSER, le Fonds de soutien à l'expression radiophonique. Tu peux nous en dire plus sur ce mode de financement ?
Oui, alors il a été créé en 1982, dès le départ, au final de ces radios associatives. Et donc ce fonds de soutien à l'expression radiophonique locale a pour objet de permettre aux radios associatives locales d'assurer leur mission de communication sociale de proximité. Et les subventions du FSER sont attribuées par le ministre chargé de la communication aux radios locales associatives accomplissant une mission de communication sociale de proximité, c'est le terme officiel, et dont les ressources publicitaires sont inférieures à 20% de leur chiffre d'affaires total.
C'est quoi cette mission de communication sociale de proximité ? Ça veut dire quoi en fait ?
Alors la communication sociale de proximité est entendue comme le fait de valoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion. Depuis le 28 février 2007, les règles d'attribution de ces aides du FSER sont fixées par un décret qui a réformé le fonctionnement d'origine et les crédits sont retracés au sein de la mission médias, livres et industries culturelles du ministère de la Culture et de la Communication. Donc il y a une commission au niveau national qui est composée de 11 membres, nommée par le ministre, et donc elle est présidée par M. André Goron, conseiller maître honoraire à la Cour des comptes. Et cette commission comprend également 4 représentants de l'État, 4 représentants des radios éligibles au fonds de soutien et 2 représentants des régies publicitaires redevables de la taxe qui alimente ce fonds. Voilà.
Et quelles sont les différentes formes d'aide du FSER ?
Alors, il y en a une qu'on peut utiliser quand on crée une radio hertzienne, une radio associative. C'est la subvention d'installation. Donc, elle peut être utilisée qu'au moment de la création d'une nouvelle autorisation par le CSA pour un service de radio. Après, il y a la subvention d'équipement qui elle permet pour toutes les radios, au fur et à mesure de leur développement, de financer des projets d'investissement en matériel radiophonique. Et puis donc la subvention d'exploitation, c'est ce qui nous occupe aujourd'hui, puisqu'il faut déposer ce dossier avant le 15 avril. Hein, donc
vous l'avez déposé, vous ?
Il est prêt à être déposé, je pense qu'il va partir demain. Voilà, je pense qu'on est dans les clous. Voilà. Et puis donc il reste aussi la subvention sélective à l'action radiophonique. Et cette aide sélective, en fait, elle se base sur les actions qui ont été conduite par le service de radio dans un certain nombre de domaines. Donc la diversification des ressources, la formation professionnelle des salariés, la consolidation des emplois, mais aussi la culture et l'éducation, l'intégration et la lutte contre les discriminations, l'environnement et le développement local, et la part des émissions produites par la radio.
Et c'est donc pour cette dernière aide que vous sollicitez des attestations.
Et oui, en effet, car il faut prouver que nous menons des actions dans les différents thèmes qu'on a évoqués, la culture, l'éducation, l'intégration, la lutte contre les discriminations, l'environnement, le développement local. Et donc c'est pour ça qu'on vous demande, à vous, un certain nombre de responsables associatifs qui êtes intervenus sur notre antenne tout au long de l'année, de venir nous dire un petit peu ce qu'on a fait ensemble pour que derrière qu'on puisse se justifier et mobiliser au mieux ce financement de l'État.
Ah oui, parce que ça ne marche pas si moi je te fais une attestation pour dire que tu es formidable.
Non, voilà. Oh, mince. Et oui, c'est voilà, tous les gens qui nous ont...
Mais gentil compliment, ça fait toujours plaisir.
Voilà. C'est ça. Tout à fait.
Moi, qu'est-ce que tu nous proposes d'écouter ?
Alors, je vais vous proposer d'écouter General Electric's Red on the Radio.
Radio! we're coming. Imagination is what we're demanding. We won't stray. You'll hear us scream and shout till they play songs we can dream about. Across the nation, dance to a different drum.
On se retrouve pour la troisième partie, et donc c'est de cette actualité, lui. Et donc c'est Aurélie qui est au micro et qui
pour
nous fait
une petite revue de presse.
Voilà, c'est ça, une petite revue
alors,
de presse.
Alors j'ai feuilleté mes magazines ces temps-ci. Alors le Biba du mois dernier, puis le Biba du mois qui vient de commencer.
C'est
là.
Une presse légère. Hein,
voilà, pas... ah, c'est ce qu'il fallait là, je me suis dit
c'est
oui.
C'est pas le courrier diplomatique.
Non, il faut. Il y a du soleil, c'est le printemps, tout ça. La prochaine fois, oui, je vous ai prévu un sujet plus intello. Cette fois-ci, on fait dans la légèreté. Et en lisant donc mon magazine, j'ai trouvé des petits clins d'œil à Anne-Marie, justement. Donc la première, c'était un site. Alors, je suis sûre qu'il va tous vous plaire. Donc c'est ce qu'on appelle un Tumblr. C'est un site, un peu comme un blog, qui rebondit sur les chroniques, sur la chronique d'Anne-Marie et du cinéma, puisqu'en fait, il est dédié aux pires critiques de bons films. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, la personne qui le fait, Anna Lafargue, c'est son nom, elle va chercher, souvent sur Allociné, hein, les petites chroniques laissées par les internautes avec les vraiment... des fois, c'est un peu consternant. Par exemple, je ne sais pas si vous avez aimé le film « Into the Wild », mais il y a un internaute, donc quand même, sa critique, c'est un film avec un tocard qui meurt comme un gland parce qu'il est trop bête pour oser flinguer une biche. Voilà, c'est le niveau de ce qu'elle a recensé sur son... Donc c'est l'anti-critique d'Anne-Marie.
C'est dommage, parce que c'était vraiment un très beau film. Mais en plus, c'était une adaptation, en fait, d'une vie, une vraie vie, hein, puisque c'est un personnage qui a existé, donc c'est un petit peu débile, sa critique, mais bon.
Ah mais en fait, c'est ça, en fait, c'est pour se moquer des gens qui disent un peu tout et n'importe quoi.
Mais,
sur...
mais c'est vrai que ça existe, enfin, il n'y a pas que sur les critiques de cinéma, il y a beaucoup de Tumblr qui sont justement sur ces aspects parodiques, avec, par exemple, sur un métier, par exemple, le prof au tableau, et t'as plein de dessins, d'images, de trucs pris de partout qui sont faits autour de ça.
Voilà, c'est un peu le principe du site qui recense les pires choses. Donc ça s'appelle Anna Lafargue, donc tumblr.com. Donc, si vous voulez aller voir, moi j'ai été voir, du coup j'ai trouvé ça assez rigolo quand même. Bon, c'est affligeant hein, parfois, je reconnais. Alors, et l'autre que j'ai bien aimé, donc en fait, c'est j'ai trouvé Anne-Marie le décodeur Biba qui nous propose en fait de décrypter quand on veut aller sur les sites de rencontres. Comme tu nous en avais conseillé, je me suis dit qu'il fallait un peu venir à l'aide des auditeurs pour quand même les aider à décrypter grâce à Biba.
Oui, et puis d'ailleurs, on peut peut-être le dire que si ça intéresse les célibataires ou les personnes mariées qui veulent trouver des maîtresses ou des amants, vous pouvez quand même réécouter toutes nos émissions sur...
on vous aide sur les gens mariés qui veulent tromper leur femme.
48fm.org. Mais vous pouvez aussi réécouter le mag de mardi dernier avec la foire aux célibataires de la Canouang. Vous pouvez aussi trouver votre bonheur.
Et vous allez proposer une émission en direct ou pas ?
Non, c'est pas prévu. Mais... Vous avez reçu dans le mag, voilà. Dommage. Voilà. Bon alors, donc Biba décodage, alors c'est marqué « J'aime m'amuser ».
Voilà, donc le type en fait qui vous dit « J'aime m'amuser », il faut comprendre qu'il a 12 ans et demi d'âge mental, que s'amuser signifie voler des panneaux stop dès qu'il est un peu éméché. Donc il vaut
C'est pas du tout mon style. Hein.
Non, voilà, il vaut mieux avoir la même notion de marade en fait et ne pas souhaiter s'engager si on tape sur un profil « J'aime m'amuser ».
Alors, on va tenter une deuxième citation. Homme cool, zen, aimant la vie, le poisson grillé, le soleil, cherche femme pour prendre le temps de vivre.
C'est toi, ça ?
Ouais, c'est totalement moi.
Alors, alléchant, non, mesdames. On se dit, tiens, un épicurien, ça va être chouette. La vie avec lui. Sauf que, en fait, traduit dans la vraie vie, c'est pas un épicurien, c'est juste un gros feignassou. Parce que prendre le temps de vivre, ça veut dire que lui, il a les fesses vissées sur le canapé, pendant que sa nana est à la cuisine pour lui préparer le fameux poisson grillé. Donc, vigilance, toutes les annonces avec profiter de la vie ou du temps présent en général, ça cherche surtout une femme de ménage, en fait.
Voilà, on entend un autre.
Un autre, allez.
J'adore apporter des petits déjeuners au lit.
Alors, là, je vais vous la faire simple, publicité mensongère. C'est tout.
Ah bon ?
En même temps, je vois pas l'intérêt de...
De mettre ce genre de truc ?
Non, de prendre le petit déjeuner au lit. C'est un truc que je n'ai jamais compris l'intérêt. Tu mets des miettes dans le lit, c'est dégueulasse, c'est pas hygiénique.
C'est pas pratique pour tartiner.
Mais pas du tout. Moi, j'aime bien être dans la cuisine,
en pyjama.
Sur une terrasse, en plein soleil. Là,
Oui, quand il fait beau, effectivement. Au lit, je trouve ça nul.
D'accord, donc dans votre annonce, mettez « Comme Anne-Marie, je ne veux pas de petit déjeuner au lit ».
Ou en même temps, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui proposent des petits déjeuners au lit, tu sais.
Alors, quatrième et dernier profil, « Je suis à découvrir ».
Ah, « Je suis à découvrir ». Alors, ce « à découvrir », c'est un peu comme l'œuf Kinder, en fait. D'abord, la promesse d'une surprise incroyable. Et une fois l'emballage ouvert, on se retrouve avec un jouet tout pourri qui se déglingue rien qu'en le construisant. Bah là, c'est pareil. On a l'impression que le mec va être génial ou bon, bah, elle est juste un peu feignant, qui n'a pas eu envie de se creuser pour rédiger son profil. Mais finalement, au lieu de prendre notre temps à le découvrir, on va plutôt reprendre un œuf Kinder. Certes, c'est un peu plus calorique, mais c'est moins déceptif.
En même temps, ça peut titiller la curiosité quand même.
Mais voilà, c'est l'idée.
Bon, tu nous en proposes un autre ou pas ?
Non, je ne vous en propose pas d'autres.
Ah bon, bah alors d'accord.
Tu en veux un autre ? Ah, j'avais « Je suis très sportif ». Alors, option 1.
Ça, bizarrement, elle ne me l'a pas fait dire.
Tu peux les lire, je suis... Mais c'est parce que j'en ai pioché un au hasard. J'avais « J'aime les femmes indépendantes », vous préférez quoi ? Ou « Homme, belle situation, cherche femme, jeune, belle, douce, pour des moments délicieux ».
Oui, ça fait un peu genre « J'ai 50 ans, mais je fais croire que j'en ai 30 », non ?
Non, je cherche une plante verte, belle plante à poser dans un coin. Donc, si tu as, c'est pas la peine de prendre ton cerveau avec toi pour ce rencard-là. Pas d'opinion sur quoi que ce soit ce soir-là. Il veut juste un truc blond avec une forte poitrine pour accessoiriser avec sa grosse bagnole.
Ah, je croyais que tu allais dire autre chose. Et c'est quoi le sportif ?
Le sportif, c'était option 1, le gars vit déjà une grande histoire d'amour avec son vélo elliptique. Ou alors option 2, il est abonné à 280 chaînes sportives et passe ses soirées à zapper.
Ouais, c'est pas tout à fait le même sport.
Hein. Non, mais ça peut marcher aussi. Alors, j'en ai d'autres, des petites anecdotes, elles m'ont pas toutes fait penser à Anne-Marie. J'ai trouvé aussi une petite rubrique pour Ludo et Guillaume. Alors, la première, La première, justement, c'était un petit gadget que j'ai trouvé vraiment sympa. C'est, en fait, quand t'as pas d'enceinte, tu vois, tu as ton lecteur MP3, mais tu n'as pas d'enceinte, eh bien, pas de problème. Mmh. Le principe de ce petit gadget, en le collant sur ta boîte de céréales, ou bien un radiateur, un casque de moto, n'importe quoi qui peut résonner, en fait, ça le fait vibrer et l'objet du quotidien, hop, magique, ludique, devient un haut-parleur. Tout ça pour 35 euros.
Formidable.
Hein, ta boîte de céréales, tu l'emmènes avec toi. Moi, tout de suite, je vous ai imaginé tous les deux. Non.
C'est sympa.
La tête d'Anne-Marie, ça lui plaît pas trop.
Ouais, non, ça ne plaît pas du tout à Anne-Marie.
Je t'ai dit que c'était pour les garçons, tu vois. C'était bien trouvé. Alors, j'en ai trouvé une autre qui m'a beaucoup plu. Là, c'est pour les fins de soirée un petit peu arrosées, tu sais, où tu en as toujours un qui fait des petits personnages avec le petit muselet du champagne ou du vin.
Mais ça nous est jamais arrivé, Aurélie.
Non, mais c'est pour ça jamais. Que c'est pour les garçons.
Voilà. Oui, mais c'est, quand je dis nous, il n'y a pas 10 personnes en moi, il y a Guillaume aussi, je suppose que ça ne t'est jamais arrivé.
De quoi de faire des personnages ? Moi, je fais des chaises.
Ah, mais bourré ou ça ?
Bon, ah non, jamais bourré.
Donc voilà.
Voilà, c'est ce que je te dis, tu n'es jamais bourré.
Donc je lui propose le petit kit que voici pour Guillaume. Donc le kit fin de soirée.
Comme vous le voyez. Comme vous ne le voyez pas derrière votre poste,
je vais vous le décrire tout de suite. Voilà. Donc, ce petit kit est adéquat pour transformer les bouchons de champ en ouistiti funky. Parce qu'évidemment, comme ça varie un petit peu. C'est plus que la chaise, mais c'est donc un petit personnage auquel on a mis un nez, des yeux, des petits bras. Et hop, on a un petit ouistiti. C'est quand même bien plus rigolo que la chaise.
Je vois des boxeurs aussi sur ta feuille. Là. De quoi s'agit-il ?
Ah, c'était effectivement, mais tu vois, je ne l'avais pas sélectionné pour vous. C'était pour ceux qui ont...
Elle s'est gardée pour elle, tu sais.
Voilà.
Il y a un truc intéressant, c'est pour moi.
Oui, intéressant. Donc, effectivement, c'est un boxer stretch 70s avec une ceinture sans couture pour un maintien à la cool. Ah. Si tu veux.
Moi, c'est très agréable.
Si, voilà, effectivement.
Le sans couture, c'est très important.
Si tu veux, je te donne la feuille. Après, comme ça, tu pourras prendre les références que tu veux.
Merci.
Voilà, voilà. Et ensuite, il y a quand même le langage des hommes à décrypter. Donc là, j'avais quand même sélectionné aussi pour que vous voyez qu'on sait ce que vous voulez
dire. Parce que ça se décrypte, un langage d'homme.
Voilà, exactement. Ah bon. Donc, par exemple, Guillaume, tu vas bien nous lire celle-là, par exemple. Cette petite première phrase rose.
Je crois que la petite a fait caca.
Donc, il faut comprendre.
Va changer les couches.
Tu peux la changer.
Et voilà. Bravo. Donc, par exemple, on pourrait en lire encore une ou deux. Allez, celle-là, trop sympa.
Tu viens courir avec moi ?
Il faut comprendre.
T'as grossi.
Voilà, mais dit avec toute la diplomatie masculine.
Alors, oui, enfin ça, je suis pas sûre quand même. Hein.
Il y en a des très gentils aussi. Il y a par exemple, j'adore ta mère. Le mec qui te dit ça, mais ça veut dire, je n'ai pas peur de vivre avec toi.
Oui, c'est sympa.
Après, je sais pas s'il faut aller chercher si loin. Je pense qu'il y en a qui sont
mais non,
aussi
mais c'est pour rire.
Très.
C'est du décodage c'est Biba. De Biba non plus.
C'est Biba, je te rappelle.
Oui. Non, mais je pense qu'en fait, ils font un truc qui sert pas à grand chose parce que généralement, vous quand et c'est ça qui est bien avec vous les hommes, c'est quand vous avez quelque chose à dire ou à faire. Voilà, vous le faites, vous passez pas par quatre chemins. Alors que nous, c'est vrai qu'on va toujours prendre. La descendier pour éviter.
Voilà, après, c'est pas de l'ethnologie, quoi. Hein.
C'est Biba.
C'est Biba.
Oui, encore une fois. Mais je te propose qu'on leur écrive pour leur dire nous avons une suggestion. Décryptons le langage des femmes pour les hommes.
Bon, alors, qu'est-ce que tu nous proposes d'autre
Qu'est-ce que je vous propose d'autre Alors, j'ai aussi trouvé des trucs improbables qui, pour moi, ne servent à rien. Mais bon, vous allez peut-être me donner votre avis. Alors, la première, quand même, j'ai pensé à Guillaume parce qu'on lui a parlé du top coat, tout ça. Et alors là, j'en ai trouvé un encore mieux. La craie capillaire chez Body Shop. Donc, c'est du make-up pour cheveux. Voilà. Mmh. Un fard super pigmenté qu'on applique comme un fard pour les yeux, mais sur les cheveux. En 3 secondes, il s'applique et ensuite, il disparaît au shampoing. Donc, tu peux passer du bleu, du rose, toutes les couleurs que tu veux, sans te mouiller les cheveux en 2 temps, 3 mouvements.
Ça veut dire que t'en mets plein les doigts.
Ah, non. Voilà. Si, tu
non.
t'en fous.
Non, non, parce que j'en avais eu, mais ça, c'est vieux comme le monde.
Ah, bah
puisque,
voilà.
Puisque quand j'étais adolescente, je m'en mettais déjà.
Non, c'est pas vieux comme le monde, alors c'est tout jeune, Anne-Marie.
Voilà. Et je me souviens très bien, je faisais des mèches bleues.
Ah,
et comment fait, tu fais ça ?
On pourrait avoir des archives ?
Non. Non, mais c'est
de la
sur radio.
Le site de 48
on est à la radio, personne ne les verra.
Non, mais c'est vraiment effectivement comme du mascara. Donc, tu as un stylet avec le bout, effectivement, des poils, on va dire. Voilà. Et puis ensuite, tu peux colorer tes cheveux. Tu les colores vraiment.
Là, du coup, c'est comme le top coat. Moi, regarde, non, c'est carrément un petit... Une petite craie, c'est carrément un petit...
Ah oui, non, alors moi, c'était pas sous cette forme-là. Voilà. Mais effectivement...
C'est comme un phare, là.
Non, parce que là, c'est de la poudre.
Alors quoi, voilà, oui, c'est comme, comme un fard à paupières.
Parce que moi, j'avais vraiment comme si c'était du mascara et je m'en mettais
comme
sur les cheveux.
Comme le top coat, donc.
Exactement. Et, mais ça, je te le dis, j'étais adolescente et j'avais déjà les cheveux bleus. Et puis, effectivement, ça part après au lavage. Enfin, quand tu te laves les cheveux avec du shampoing, ça part facilement.
J'ai hâte de voir les photos.
C'est clair, il va falloir qu'on trouve ces dossiers-là. Alors, j'en ai trouvé
une autre.
Les
personnes qui disposent de ces ressources nous écoutent.
Donc ça, c'était bleu. Et puis, j'ai eu aussi des mèches rouges. Mais ça, c'était des vrais. Attendez.
Ah oui. Voilà.
J'aime bien la couleur.
Bon, alors on continue.
Alors j'en ai une autre aussi qui m'a beaucoup plu, vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est les trois chaussettes, donc font la paire.
Ouh. Ah oui, mais ça c'est vieux aussi.
Ah bah écoutez, excuse-moi,
ça fait
je vous sors que des trucs vieux, mais moi
Aurélie, ça fait ton biba là, il a quel âge là?
C'est 2004,
c'est
2004.
C'est un truc que t'as récupéré chez le médecin.
Non, elle se dit yes. J'ai pas entendu une chronique.
T'as volé un vieux biba dans la salle d'attente de ton dentiste.
Bah non, moi j'ai franchement,
je t'ai remboursé Aurélie.
Mais surtout, je trouve ça totalement débile. Donc tu achètes trois chaussettes.
Oui, et puis en plus qu'ils ont pas coordonné les trois entre elles.
Ah bah là, ils ont l'air coordonnés. C'est trois Lucky Luke sur ma photo, tu vois. Oui. Non mais oui, peut-être t'as raison qu'elles sont pas.
Non, elles sont pas totalement exactement pareilles. Enfin, il y a une époque, il y a eu ce concept-là.
Donc c'est au cas où il y en a une qui s'enfuit, il t'en reste quand même deux. Mais
c'est archi pratique, si.
Mais au bout d'un moment, il y en a une qui va encore s'enfuir.
Ah, t'en rachètes d'autres.
Après, il y a une autre solution et je sais pas si j'en avais pas parlé déjà dans une chronique, c'est qu'il y a certaines célébrités qui disent j'achète toujours les mêmes chaussettes.
15 paires de chaussettes.
Et comme ça, j'ai jamais aucun problème.
Voilà.
Moi, en même temps, si c'est notre problème, le seul problème qu'on a de la journée, c'est nos chaussettes, avec te dire, ça va quoi.
Voilà. Ah, et puis pour les mecs, on peut signaler qu'il y a des chaussettes Loser dans le slip français. Vous savez, cette marque qui fait du Made in France hein, a une série de chaussettes qui portent le nom de département français. Et donc, les chaussettes orange correspondent à la Loser.
Et tu en as ?
Non, bah j'ai des chaussettes oranges, mais qui ne sont pas des chaussettes
slip. Vous ratez, Guillaume,
vous montre ta chaussette bien orange. T'as peur qu'on te perde dans la nuit, non?
Ah non, regarde, c'est juste
synchronisé avec mes lunettes.
Ça branche de lunettes, ça, c'est quand même la classe.
Est-ce que ça veut dire que ton slip est orange?
Non, là, tu ne le montres pas, merci. Oh bon. Ah oui, on est à la radio, c'est ça que tu veux dire? Mais nous, on le verra. Alors, justement, là, je vais avoir une transition. Je vais avoir une transition super difficile à faire avec ma prochaine anecdote,
vas-y.
Puisque c'était le monster porn. Désolée. Donc,
ah oui.
C'est une drôle d'idée venue d'ailleurs, le monster porn. Donc, c'est-à-dire que c'est des romans érotiques, un peu, comment ça s'appelle là, la collection rose machine.
Festif, il les connaît pas.
Ouais,
voilà, un requin. C'était ça que je trouvais pas.
Ouais. Alors que sur ta table de chevet, hein,
vous allez voir tout de suite que... ça fait tout de suite envie, puisque le premier titre s'appelle « Prise par le T-Rex »,« Partenaire du loup-garou »,« Mon amant licorne » et autres titres affriolants ou pas de ce nouveau sous-genre littéraire donc, qui agite en ce moment le petit milieu de l'érotisme. Enfin bon, voilà, il paraît que c'est suite au succès de 50 nuances de Grey. Donc là, on a en fait tout un tas de bestioles plus ou moins fantastiques dans les récits pornos. Voilà.
Ouais, c'est la grande tendance de cet érotisme.
Ah bon, bah voilà.
Bah oui, non,
mais alors
vrai,
on a prise par un pétrodactyle aussi, enlevée par un triceraptor. Enfin, moi je sais pas, mais j'ai une petite image dans ma tête de ce que peuvent être ces bestioles et tout de suite,
c'est
là,
pas très attirant.
Je vois beaucoup de dents, de griffes et de grosses bêtes, mais c'est tout, hein. Enfin voilà.
Bon d'accord. Donc après
petite info qui ne sert à rien. Voilà. Alors j'en avais une autre aussi. C'était la récup de luxe. C'est-à-dire qu'en fait, on crée un petit collier, donc le collier de petit H, qui est créé à partir de chutes, mais pas n'importe quelle chute, les chutes de carrés de soie Hermès. Et donc, ce collier s'appelle R, et c'est un accessoire très léger, comme son nom l'indique. Sauf peut-être pour le prix, puisque ce petit bout de bord de carré Hermès coûte quand même 185 euros. Voilà, donc moi, quand je lis ça, boum, je tombe un peu de ma chaise en me disant « Ouh !»
Bah, si tu trouves quelqu'un de galant, de gentil, d'attentionné.
Mais allons au resto pour 185 euros plutôt qu'acheter un pauvre morceau de carré Hermès. Ah, bah bon, je vous ai quand même trouvé des vraies bonnes idées que j'ai trouvées très sympas.
C'est le troisième paquet de feuilles, hein, je vous le dis.
Ouais, voilà.
Dans la revue de presse, il y avait trois paquets, ça c'est le troisième.
Il y en avait quatre.
Ah, bon, oui, mais c'est pas grave.
Ouais, voilà. Alors, les vraies bonnes idées. Donc la première bonne idée, c'est de gagner une main. Vous avez déjà essayé de donner à manger à un bébé en tenant d'une main la cuillère, de l'autre le pot, et avec la troisième main, et ben, le bébé. Donc, c'est pas très facile. Du coup, cette cuillère, en fait, dont le manche est creux, ça fait comme une paille, et la fin se termine en cuillère. Du coup, tu l'adaptes au goulot de n'importe quelle gourde de compote, etc. Et d'une simple pression de la main, en fait, tu peux donner la cuillère à ton bébé, ce qui fait que l'autre est libre. T'as pas le pot, la cuillère.
Et tu as essayé le week-end dernier avec ton neveu ?
Ah bah non, parce que pour l'instant, il est trop petit, il mange pas encore de compote. Bon. Ouais. Voilà. Mais du coup, je me suis
et
dit...
Et ça vaut combien, cette connerie ?
Cette connerie, tout de suite. Donc, Baby Clip, 9,99€ les trois.
D'accord. Bon, ça voilà. Va, c'est pas trop trop cher.
Voilà, j'ai dit que c'était un bon plan. Alors, le bon
bonne
plan...
Bonne idée.
Geek. Cette fois.
Ah, c'est pour nous, ça.
Donc, on n'utilise pas toutes les heures de son forfait téléphonique. Du coup, elles se perdent dans les limbes. Et ben, une société propose de les racheter et de
beaucoup,
vous rembourser. Hein. Bah si, il doit bien y en avoir. Donc, cette société, en fait, te rachète tes heures non consommées et te les rembourse. On vérifie si le forfait est compatible et hop, plus de gaspillage. Ça s'appelle forfait, petit trait du 6, gagnant.com. Moi, je trouve que c'est malin.
Ouais. Voilà. Quand on a un forfait illimité, je suis pas sûr que...
Eh ben non, ça doit peut-être pas marcher. Mmh. Et là, j'ai trouvé le truc pour Guillaume.
Ah.
Alors, c'est un bloc-notes pour aller en réunion.
Ah.
Mais au lieu d'avoir de façon pas très discrète tous ces iPhones posés sur la table, il y a un petit découpage avec le petit logement de l'iPhone. Et donc, en toute discrétion, tu prends des notes et tu peux donc tranquillement, sans faire d'acrobatie et en étant planqué... Continuer à draguer sur Tinder pendant le PowerPoint du DG.
Tu fais ça, toi, Guillaume ?
Du tout.
Ou tu bien sortir sur Internet.
Jouer à Candy Crush.
Ou jouer à Candy Crush.
Je ne fais rien de tout ça.
Voilà, il faut bien le dire.
Tu dragues comme ça.
Ah non.
Quand t'es en réunion.
Absolument pas.
Guillaume, tu me déçois quand même.
Et comme Anne-Marie nous a dit qu'elle voulait se lever pour aller prendre son petit déjeuner.
Ah bah c'est pas que je veux, c'est que je le fais tous les matins, oui.
Oui. Eh bien, j'ai trouvé le truc vraiment intéressant quand tu te lèves très tôt, qu'il fait encore nuit noire.
C'est rare.
Eh bien, regarde, ce sont des chaussons-lampes. C'est-à-dire ils sont quand même très, très moches, il faut reconnaître. Mais évidemment, il y a
mon post-it là. C'est panthère, alors forcément.
C'est panthère. Mais surtout, au bout du chausson, il y a une petite LED. Et comme ça, tu ne risques plus de te fracasser le petit orteil contre la table de nuit quand tu te lèves en pleine nuit.
Oui, c'est vrai que c'est pratique la nuit.
Hop,
mais bon.
Tu sautes dans tes pantoufles lumineuses et tes pieds...
Et elle s'allume automatiquement.
Voilà, éclaire à 7 mètres.
Tu sais, mon appart, il n'est pas aussi grand. Hein.
Et oui,
voilà, grâce à ces diodes, donc, situées à l'avant de la semelle. Et alors, ça va être vendu en grande surface, ces petits chaussons-là.
Bon.
Et ça vaudra combien ?
Entre 20 et 25 euros.
Oh, ça va, c'est pas cher pour
ça va, pour mais un truc je aussi conseille ridicule. Quand même d'être célibataire, hein, pour ceux qui veulent porter ce genre de pantoufles.
Non, non, parce que si t'es célibataire, t'allumes la lumière. C'est quand même vachement plus simple.
Oui, moi, je sais que la nuit, tu vois, quand je me réveille, bon, ça, vous vous en foutez, mais je n'allume pas la lumière.
Voilà. Mais oui, mais justement.
J'allume pas.
Tu aurais tes chaussons.
Mais tu risques de te cogner l'orteil.
Voilà.
Alors que là, tu vois cette mètre.
Enfin, c'est gentil de penser à mon orteil.
Bien, mais tu peux interroger ton compagnon qui rentre à 3h du matin. Tu lui braques la diode dans l'œil.
Ah oui, mais ça voudrait dire qu'il faut que je lève le pied. Tu crois que j'ai que ça à faire la nuit, moi ?
Mais puis si tu te mets au lit avec tes pantoufles...
Ah, tu es à bout.
T'éclaires le plafond à 7 mètres.
C'est n'importe voilà. Quoi. Bon, d'accord.
Oui, je vous avais dit que je vous avais trouvé des super bonnes idées.
Bon, en tout cas, pour ton anniversaire, on sait quoi t'offrir, Aurélie.
Hein. Moi, ça me fait beaucoup rire, Biba. Oui.
On va guetter ses pantoufles. Hein.
Voilà. Puis on va t'apporter le petit déj au lit.
Parfait.
Bien, mais qu'est-ce qu'on écoute pour finir avec
alors,
tout ça ?
Alors, je vous propose juste une chanson que j'aime, Paint It Black. We'll be right back.
Actu,
elle
et lui. Et voilà, c'est déjà fini. Voilà, nouveau numéro d'Actuel et lui qu'on est heureux de vous proposer.
Merci à tous. À bientôt.
Voilà. On se donne rendez-vous forcément pour les rediffusions de cette émission. Donc le jeudi à 12h30 et le mardi à 18h11. Voilà, vous pouvez nous réécouter également sur 48fm.org. Il faut toujours faire monter notre score. Nous avons encore des places à rattraper. Voilà, et puis.
Deux. Deux places. Je suis idée, on a l'impression qu'on est au bout de la liste. Mais non, on est quand même sur la troisième marche du podium.
Et oui.
Et oui, oui. Et bien écoutez, bonne
à
journée
bientôt,
à
bientôt.
Tous et à
ciao,
bientôt.
Ciao.
Actu.
Elle.
Et lui.
Actu.
Actu. Actu. Elle et lui.
Elle.
Lui. D'actuel.
Et lui.